Jeanne d'Arc, 1412-1431. L'enfance de Sainte Jeanne d'Arc. Ce récit est extrait du livre La Douce France, publié le 1er juillet 1911 chez l'éditeur de Gigord, ouvrage rédigé par René Bazin à la demande de l'Alliance des maisons d'éducation chrétienne. Le but recherché était d'écrire pour les écoles afin de montrer aux jeunes Français pourquoi nous devons aimer la France. Dans son avant-propos, René Bazin écrivait « Enfant, dès que l'idée d'écrire ce livre a eu pris possession de mon esprit, des centaines de raisons d'aimer notre pays se sont présentées à moi. Que je voudrais avoir glorifié toute l'âme de la France. J'ai seulement essayé de vous dire « Aimez-la bien, servez-la bien ». Cet ouvrage contient plus de 50 récits regroupés dans une quinzaine de chapitres. Le récit de Jeanne d'Arc appartient au chapitre « Trois jeunesses ». À Don Rémy sur Meuse, en Lorraine française, une petite fille naquit chez des laboureurs dans la nuit de l'Épiphanie 1412. Le père se nommait Jacques d'Arc, la mère Isabelle Romée. La nuit était sûrement froide puisqu'on était au commencement de janvier et les bonnes gens du bourg, fatigués par le travail de la journée, auraient dû comme d'habitude veiller au coin du feu. Cependant, ils furent vus ce soir-là au seuil des portes. Une porte s'ouvrait, puis une autre, et une autre encore. « Qu'avez-vous, mon voisin, à mettre le nez dehors et à regarder les étoiles ? Et vous donc, qui faites de même ?» Il nous est venu tout à l'heure une joie au cœur, et nous ne savons pourquoi. Nous pensions que la nuit était douce. « Elle ne l'est pas, mais je suis comme vous. Je ne puis tenir en place. J'ai l'âme en fête. Qu'est-il donc arrivé pour que tout le bourg s'émeuve ?» Ils causaient ainsi. Et les coqs, dans les poulaillers, bien qu'on fût loin de l'aurore, s'éveillèrent et pendant plus de 2 heures ne cessèrent de chanter. Une petite fille était née et les voisins ne le savaient point encore, dans la maison de Jacques d'Arc, où ils savaient seulement qu'il y avait déjà 3 petits garçons. Dès le lendemain, il fut porté à l'église qui n'était séparée de la ferme que par un jardin et un petit mur. Et quand le prêtre demanda « Quel nom voulez-vous donner à cet enfant que je baptise ?» 4 voix répondirent « Jeanne, monsieur le curé ». L'usage permettait alors plusieurs parrains et marraines. Jeanne en avait sa 12aine, 4 parrains qui tous s'appelaient Jean et au moins 8 marraines dont la femme du maire Aubry. On voit ainsi par le nombre des compères et commères et par leur qualité que le ménage de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée était en considération dans le pays. On faisait grand cas de leur honnêteté, de leur jugement et de leur foi. Ils possédaient quelques champs, un troupeau de bœufs et de vaches et des moutons que les enfants allaient garder tantôt au bord de la rivière, tantôt sur les pentes de la colline de Don Rémy. Le soin de leurs terres et de leurs bêtes n'absorbait pas toute la pensée de ces laboureurs. Leur vigilance était grande aussi pour conserver la foi, pour vivre selon les règles de la religion, les faire aimer autour d'eux, les défendre quand ils en avaient besoin. C'étaient de bons chrétiens et des Français fidèles. Ils souffraient de voir la France amoindrie, les Français divisés, le roi d'Angleterre maître de Paris et des provinces au nord de la Loire, le roi de France presque abandonné et réduit à si peu de puissance que ses ennemis, pour se moquer, l'appelaient le roi de Bourges. D'affreuses famines, par moments, ravageaient des villes du royaume, d'autrefois des maladies, plus souvent des bandes armées qui se levaient du désordre de toutes choses et couraient au pillage. Ils apprenaient toujours quelques malheurs nouveaux. La rumeur leur en venait vite à Don Rémy, car la route de Langres à Verdun traversait le village, et les voyageurs, les marchands, les troupes d'hommes d'armes ne manquaient pas de raconter en passant ce qu'ils avaient appris au loin, et dans chaque maison, le soir à la veillée, on parlait des douleurs de la France. Isabelle Romée joignait les mains de ses enfants et il répétait après elle « Mon Dieu, sauvez la France !» Sur cette miette de terre conservée au roi de France, l'espoir de la délivrance était ardent et tenace. Jeanne, dès qu'elle put comprendre, sut que la patrie était digne de tout amour. On lui apprenait à travailler de ses mains et à garder son cœur très noble. Elle n'était bergère que comme les autres enfants des fermes qui vont aux champs avec les bêtes quand les prés sont mal clos. Son premier ouvrage était dans la maison. Elle aidait sa mère à faire la cuisine, à laver le linge, à raccommoder les hardes, à filer le chanvre et le lin. « Je sais filer, dira-t-elle plus tard, aussi bien que femme de France. » Puis, si le père sortait avec le harnais pour les labours d'automne, elle conduisait la jument de tête. Au printemps, elle sarclait les blés. En été, elle les coupait à la faucille. C'était une belle enfant robuste, enjouée, que les petits du village aimaient à cause de sa bonté et que les pauvres allaient trouver d'instinct à cause de la miséricorde qui était dans ses yeux. On ne saurait trop dire qu'elle réunissait les plus certaines qualités de l'esprit français, enthousiaste et sensée, audacieuse, vive de répartie, prudente à sa manière, vraie fille du terroir, en qui la race est éclatante et que la grâce de Dieu porta jusqu'au sublime. Jeanne vivait toujours en présence de Dieu, priant tant qu'elle pouvait, assidue à l'église où chaque matin elle entendait la messe, et où elle recevait souvent, avec larmes, la communion. Quelques filles du bourg la trouvaient trop dévote. Elle laissait dire, et elle avait raison. Mais son âme grandissait jusqu'à la sainteté, et Dieu, qui l'a destinée à sauver la France, la voyant si fidèle, lui envoya son ange afin de la préparer à tant de gloire et de péril. Jeanne était dans sa 13e année, lorsqu'un matin d'été, tout animée encore par la lutte à la course qu'elle venait de faire avec ses compagnes, elle entra seule dans le jardin de son père et se tint debout, regardant vers l'église. Midi sonnait au clocher. Elle récita l'Angélus et à peine avait-elle achevé qu'elle s'entendit appeler par son nom. Dans une lumière qui n'était point celle du soleil, mais une autre plus puissante et faite pour être mieux aimée, elle aperçut un ange d'une majesté très souveraine et très douce. Une légion d'anges d'un moindre pouvoir resplendissait et se mouvait dans le rayonnement de celle-ci. « Jeanne, Jeanne, dit-il, sois bonne et pieuse, aime Dieu, fréquente l'Église. » Elle s'était jetée à genoux, mais déjà il avait disparu. Que voulait-il donc, ce personnage du ciel, en lui parlant ainsi? Elle le savait dès ce moment. Elle sentait que de grandes choses seraient accomplies par elle, que Dieu l'en prévenait et lui demandait son consentement. Il nous demande avis lorsqu'il veut bien nous employer. Jeanne ne raconta à personne, si ce n'est à son confesseur, ce qu'elle venait de voir et d'entendre. Elle se remit au travail de chaque jour et demeura simple comme par le passé. Mais sa volonté d'être tout à Dieu s'était fortifiée. La vision se renouvela. Jeanne avait besoin de tant de courage, elle devait apprendre tant de choses en si peu de temps pour se faire écouter du roi, rallier les cœurs français et conduire une armée, qu'il fallait bien que les anges vinssent l'instruire. Il conversait avec elle et peu à peu lui révélait ce que Dieu voulait d'elle. L'ange très puissant qu'elle avait vu le premier lui dit bientôt « Je suis Michel, le protecteur de la France. » Et elle lui fit une grande révérence, se souvenant de la dévotion que les meilleurs gens de France avaient pour l'archange et de l'église de Moncel où elle allait souvent le prier. Il reprit « Jeanne, il y a grande pitié au royaume de France. » Et elle baissa le front. Mais il la consola. Il était le victorieux, celui qui communique sa force aux armées qu'il invoque. Il promit à l'enfant que le pays serait sauvé, que Dieu susciterait du milieu du peuple un être élu qui serait la délivrance de tous. « Dites-moi son nom, » demanda Jeanne, « que je connaisse celui par qui viendra le salut. » « C'est toi, fille de Dieu, » répondit l'archange. « Pars, il le faut. » « Mais je ne suis qu'une pauvre fille. Je ne connais ni A ni B. Je ne sais ni monter à cheval, ni faire la guerre. » Elle ne refusait pas d'obéir. Elle ne comprenait pas qu'elle pût être choisie, elle, paysanne, ignorante et enfant. Pour l'enhardir et par avance la consoler de tout ce qu'elle devrait quitter, deux saintes du paradis, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, venaient aussi la visiter. Les autres enfants de Don Rémy ne les voyaient pas, mais Jeanne les voyait. Plus tard, quand elle fut obligée de révéler quelques-uns des secrets de sa vie pour désigner les anges et les saintes, ses amis, elle disait « Mes voix m'ont parlé, mes voix m'ont commandé. » Elle devenait grande. On la citait pour une fille parfaite selon son état, mais tout le sublime de sa vie, personne encore parmi ses proches, ne le pouvait soupçonner. Quand Jeanne eut 16 ans, les voix se firent plus pressantes. Elles annoncèrent que le moment était arrivé et qu'il fallait qu'elle se rendît près du seigneur de Baudricourt. Celui-ci, avec quelques hommes d'armes, habitait le château de Vaucouleurs, la dernière forteresse qui fut au pouvoir du roi de France dans les provinces de l'Est. C'était un homme brave et brusque, peu porté à écouter une femme qui viendrait lui parler de la guerre et des affaires du royaume. Seul, cependant, il pouvait permettre à Jeanne d'accomplir sa mission et lui donner une escorte qui l'accompagna jusqu'en Touraine, où était le roi Charles VII. Comment le persuader? Comment la jeune fille ferait-elle la route de Don Rémy à Vaucouleurs? Ses parents la retiendraient. Personne ne voudrait la croire. Elle attendait le secours, il vint. Le 1er mai de cette année, un paysan de Burcy-le-Petit, Durand la Soie, qui était son cousin, un homme très droit et beaucoup plus âgé qu'elle, vint visiter Jeanne d'Arc et Isabelle Romée et demanda la permission d'emmener celle qu'il appelait sa nièce. Ils s'en allèrent donc par les chemins entre les blés jeunes. Ils regardaient autour d'eux ces moissons que l'ennemi peut-être moissonnerait ou qu'il incendierait, et les collines douces vêtues de bois qui étaient la frontière du royaume plein d'angoisse, et ils causaient de la misère de la France. Les larmes coulèrent des yeux du paysan. Elles étaient venues tout de suite aux yeux de la jeune fille. Alors Jeanne commença à dire son secret. Rien n'est perdu. Dieu viendra au secours de la France qui périt. Une vierge de Lorraine la sauvera. Elle triomphera de l'Angleterre. Vous la verrez, mon oncle. Vous la voyez même en ce moment. C'est votre pauvre Jeannette. Jeanne continua en racontant ses visions et ce qu'avaient dit ses voix, et les ordres précis qu'elle en avait reçus. Bientôt, il ne douta plus. Comme notre Seigneur avait eu des bergers pour premiers adorateurs et des pêcheurs pour premiers disciples, Jeanne, sa servante, trouvait d'abord un pauvre pour la comprendre. « Dieu t'a parlé, » dit-il. « Que puis-je faire ?»« Me conduire au Seigneur de Baudricourt. » Il se passa bien peu de jours avant que ce pauvre homme allât trouver le capitaine de Vaucouleurs. On le fit entrer dans le château fort. Mais à peine avait-il raconté que sa nièce demandait à être conduite près de Charles VII que le seigneur de Baudricourt s'écria « Ta nièce est folle, soufflette-la comme il faut et ramène-la à son père !» Le paysan de Lorraine ne fut pas ébranlé. Il eut recours à deux gentilshommes qui habitaient non loin de Vaucouleurs. Ils virent Jeanne d'Arc et l'ayant interrogée, ils crurent qu'elle disait vrai. Tous ensemble, les gentilshommes, le paysan et Jeanne, ils retournèrent au château. Mais le seigneur ne se laissa pas convaincre et Jeanne revint à Don Rémy. Elle ne fut pas étonnée ni chagrine. Ses voix l'avaient prévenue que la première tentative échouerait. Mais elle résolut de ne pas laisser ignorer tout à fait son secret, afin qu'on sût plus tard que ses voix étaient du ciel. Ayant rencontré un jeune homme de son âge, un ami d'enfance, et comme il s'affligeait de tant de maux qui faisaient de la cause de la France une cause désespérée, « Il y a, dit Jeanne, entre Cousset et Vaucouleurs, c'est-à-dire à Don Rémy, une jeune fille qui, avant la fin de l'année prochaine, fera sacrer le roi de France. » Ce qui était une prophétie. Elle parla de même et plus clairement encore à un ouvrier de son père qui se nommait Jean Vatrin et à d'autres. Le temps mesuré par Dieu pour l'épreuve de la France était enfin achevé. En décembre 1428, Jeanne, pour la seconde fois, quitta Don Rémy. Elle savait sans doute qu'elle n'y reviendrait jamais et elle pleurait, laissant derrière elle toute la joie et la coutume de sa vie, ses parents, ses amis, sa maison, l'église voisine et le pays où tout le monde l'aimait. Quand elle passa devant la porte de son amie Manguette, qui était comme sa sœur, elle ne put se retenir d'entrer et d'embrasser la jeune fille. « Je te recommande à Dieu, » dit-elle. Mais le cœur était près de défaillir. Elle ne voulut pas revoir la petite Oviette qu'elle aimait aussi tendrement. Conduite par le même parent, Durand la soie, qui l'avait déjà menée au château de Vaucouleurs, elle s'en alla. Quel grand sacrifice déjà pour le salut de la France! Elle eut encore à souffrir beaucoup de difficultés et de retards avant de convaincre le seigneur de Baudricourt. Mais les témoins de la bonne française, les âmes gagnées par la sainteté de l'enfant, commençaient à se déclarer ouvertement pour elle. Une espérance était née sur la terre malheureuse. Elle grandissait. Un jeune gentilhomme, Jean de Metz, et des bourgeois, et des prêtres, et des marchands de la ville venaient interroger l'envoyé de Dieu chez les pauvres gens qui la logeaient. Les habitants s'entendaient pour lui offrir des vêtements pareils à ceux des hommes d'armes, un cheval, des provisions. Ils étaient tous émerveillés de l'autorité et de l'assurance qui étaient dans ses paroles, et ils l'appelaient la messagère de Dieu. « N'avez-vous pas peur, disait-il, les routes sont longues jusqu'à Chinon où est le dauphin. Elles sont barrées d'ennemis qui vous arrêteront. » Mais Jeanne disait fermement, « Je ne crains pas les hommes d'armes. La route est toute ouverte devant moi. J'ai pour moi Dieu, mon Seigneur. C'est lui qui préparera les voies pour me conduire au dauphin. C'est pour cela que je suis née. » Robert de Baudricourt céda enfin. Il écrivit une lettre qui devait être portée au roi de France et donna à Jeanne une épée. Dans l'après-midi du mercredi 23 février 1429, 6 cavaliers étaient groupés devant la porte de la maison où Jeanne habitait depuis plusieurs semaines à Vaucouleurs. Un bourgeois alla chercher un cheval tout sellé et le tint en bride. Il y avait un grand nombre de spectateurs et ils étaient émus parce qu'ils savaient que Jeanne allait partir. Ils attendaient et se montraient l'un à l'autre Jean de Metz qui devait commander l'escorte. Sur le seuil, entouré de ses hôtes et de son cousin qui lui disait adieu, Jeanne d'Arc parut. Elle était toute vêtue de sombre, pourpoint, chausse, robe courte, et elle avait les cheveux coupés à la naissance du cou, comme un chevalier. « Allez, Jeanne, la France est bien malade. Vous la délivrerez de par le roi des cieux, et vous mourrez pour elle. » Jeanne s'approcha du cheval qui était tout scellé, sauta dessus légèrement, et se mit à chevaucher du côté où est la Loire.